Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et les mets en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons aujourd'hui commencer un autre traité, le traité sur la tempérance, qui est très beau, qui couvre les questions 141 à 154 de la deuxième partie, de la seconda seconde. Je me suis aperçu que sur le polycopier qui est sur le site d'Anne Marie, en fait, je ne sais pas pourquoi il manque toutes les parties, les textes de Saint Ignace, de Saint Thomas d'Aquin, pardon, correspondant au traité sur la force, sur la tempérance et sur les états de vie dans toute la fin de la seconda seconde. Je ne sais pas où ces textes sont passés. Donc je suis en train de retravailler ça pour pouvoir les rajouter sur le polycopier, rajouter la partie manquante. Donc ça va faire un changement de page. Je m'excuse, mais je tiens à ce que ce polycopier soit aussi complet que possible. Je vous préviendrai dès que ce travail aura été terminé. Donc, la tempérance est une vertu cardinale, la prudence, la force, la justice et la tempérance. Comme toutes les vertus cardinales, elles doivent être contrôlées par la foi, l'espérance et la charité. Et n'oublions pas que les vertus cardinales se situent entre deux excès. Donc, on peut avoir trop ou pas assez de chaque vertu cardinale. Donc, je vous donne le plan général de ce traité de Saint Thomas d'Aquin sur la tempérance. Donc, il examinera d'abord la définition de la tempérance et ensuite les vices qui lui sont opposés, l'insensibilité et l'intempérance. Il s'occupera ensuite des parties de la tempérance en général, puis de chacune d'elles en particulier. Donc, les parties intégrantes, la honte et l'honnêteté, les parties subjectives, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair. Les plaisirs de la table sont réglés par l'abstinence, dont l'acte principal est le jeûne, et qui a pour vice contraire la gourmandise, puis par la sobriété, dont le vice opposé est l'ivresse. C'est un traité, vous verrez, très pratique. Les plaisirs de la chair sont réglés par la chasteté et la virginité, vertus qui ont pour contraire la luxure et ses différentes parties. Bon, c'est un traité magnifique, facile. Facile à expliquer, je crois, et facile à comprendre, je crois aussi. Alors, voyons d'abord la question 141 de la Seconda Seconde, donc l'introduction à ce traité sur la tempérance, la nature de la tempérance. Donc, Saint Thomas commence par se poser la question de savoir si la tempérance est une vertu. Je vous l'ai déjà expliqué que la vertu, c'est l'habitude d'opérer dans le bien. Donc, la tempérance étant une modération dictée par la raison, doit prendre rang parmi les vertus. Pourquoi ? Parce qu'elle nous porte à ce qui est raisonnable. Comme toutes ces vertus cardinales, elles sont très importantes. Il est très important de comprendre aussi que ces vertus doivent être dictées par la raison. Nous allons expliquer tout de suite, et ça c'est très important, que la raison doit dicter l'usage que nous faisons de notre nature. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel à l'homme que ça veut dire que cette chose est bonne. Et donc là, je voudrais répondre à un argument, à une objection qu'on entend très très souvent,
Les gens nous disent, c'est dans ma nature, donc puisque ma nature est comme cela, j'ai le droit de la suivre, et vous ne pouvez rien dire contre cela, puisque c'est dans ma nature. Je suis quelque chose de naturel pour moi. Et l'exemple classique, c'est malheureusement cette objection qu'on entend très très souvent, c'est la question des vices contre nature. Saint Thomas va en parler, vous verrez, de façon très ferme. Beaucoup de gens nous disent, malheureusement, j'ai entendu ça très souvent, des gens qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai une tendance naturelle à ce que vous appelez un vice contre nature, à la sodomie, vous comprenez, moi, en tant qu'homme, je n'ai jamais été attiré par une femme, c'est dans ma nature de ne jamais avoir été attiré par une femme, donc ce n'est pas du tout pour moi un péché de vivre en couple avec un autre homme, parce que c'est selon ma nature. Et je réponds toujours de la même façon en disant, voilà, monsieur, il est dans ma nature d'être un kleptomane. Je vole les portefeuilles, je fais collection de portefeuilles. Je ne dépense pas l'argent que je vole, rassurez-vous. Et je viens vous avertir que je viens de voler, il y a quelques minutes, j'ai volé votre portefeuille qui est dans ma poche et que je garde parce que je suis un kleptomane. Étant kleptomane, c'est ma nature d'être un kleptomane, donc vous devez respecter cette nature et je garde votre portefeuille. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est la boisson. Beaucoup de gens me disent, monsieur l'abbé, à cause du milieu familial dans lequel j'ai toujours vécu, mes parents sont malheureusement des ivrognes tous les deux, j'ai toujours vécu dans un endroit, dans une famille qui boit beaucoup, et donc l'ivrognerie est devenue, l'ivresse est devenue pour moi quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui fait partie de ma nature. Donc, je n'ai pas à lutter contre cette ivresse puisque c'est naturel pour moi. Eh bien, Saint Thomas va répondre justement en expliquant que si... une passion n'est pas dictée par la raison, elle devient mauvaise. Donc, expliquons un petit peu. La tempérance nous éloigne des plaisirs auxquels la nature est portée. Bon. Elle n'est donc pas une vertu. Ça, c'est une objection qu'on entend souvent. Bon. La nature, réponse, la nature inclinant chaque être à ce qui lui est convenable, l'homme, nous en convenant, désire naturellement les plaisirs qui lui conviennent. Mais étant comme homme, un être raisonnable, il ne doit se permettre que les plaisirs approuvés par la raison. Tout homme a une intelligence, donc tout homme est raisonnable. La définition d'un homme, c'est un animal raisonnable. Un chien n'a pas d'intelligence. Donc un chat ou un chien n'a pas de volonté propre. Donc, il n'a pas de raison. Mais nous, on a une raison. Or, la tempérance n'éloigne pas de ses plaisirs. Reprenons le texte. Étant comme homme un être raisonnable, il ne doit se permettre que les plaisirs approuvés par la raison. Or, la tempérance n'éloigne pas de cela, elle répudie seulement les jouissances contraires à la raison. Loin de combattre les inclinations de la nature humaine, elle s'accorde avec elle et ne contredit que les mauvais penchants de la nature animale. Si il n'y avait pas le péché originel, nous pourrions suivre en toute tranquillité de conscience nos passions. S'il n'y avait pas le péché originel, à cause du don d'intégrité qui était dans l'âme d'Adam et Ève avant le péché originel, il y avait un ordre dans la nature humaine d'Adam et Ève, et cet ordre faisait que les passions étaient systématiquement soumises à la volonté à la raison, à l'intelligence, et l'intelligence à Dieu. Malheureusement, l'introduction du péché originel a mis la révolution dans la nature humaine d'Adam et Ève, et par voie de conséquence, dans la nature humaine de tous les hommes qui vont suivre, donc dans notre nature humaine. Nous n'avons plus les dons préternaturels qui étaient donnés à Adam et Ève, et du coup, la révolution est là. Il faut le savoir, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, à cause du péché originel, il y a une révolte entre les différentes passions dans notre âme, et les passions ont tendance à se révolter contre la volonté, même après le baptême, encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué 20 000 fois, à savoir que le baptême détruit le péché originel, mais ne détruit pas, laisse des blessures provoquées par le péché originel, même après le baptême. Notre intelligence, par exemple, sera blessée par l'ignorance. Il y aura la blessure de faiblesse, la blessure de malice, la blessure de concupiscence. On va voir tout cela. Donc il est très important de comprendre que à cause des blessures du péché originel, qui sont dans toutes les âmes, même après le baptême catholique, il y a en nous une nécessité de soumettre les passions à la raison. Et donc, on ne peut se permettre que les plaisirs qui sont approuvés par la raison. Donc, la vertu, la prudence, la tempérance, pardon, est donc une vertu, et non seulement une vertu, mais une vertu spéciale qui va mettre un frein aux excès de la nature animale par lesquels l'homme s'avilie. On le voit très bien aujourd'hui, où le bon Dieu a littéralement été mis complètement au rebut, dehors de la société dans laquelle nous sommes obligés de vivre, malheureusement. Et Dieu ayant été mis dehors, le démon a pris la place, ce qui fait que l'homme moderne est en train de redevenir un animal. Redevenir un animal. C'est quoi? Il devient comme un chat ou un chien, si vous voulez. Il y a la viande qui est dehors, le chat a faim, il saute sur la viande et la mange. Il ne s'occupe pas de savoir si cette viande est à lui ou non. Il saute dessus, il la mange. Eh bien, l'homme moderne est comme ça. Il voit quelque chose qui l'intéresse dehors, un objet qui l'intéresse, il le prend, il en fait sa propriété par le vol. Il voit une femme qui l'intéresse, il saute dessus, il en fait sa propriété aussi par tous les péchés contre la pureté, même si c'est la femme de son voisin. Pourquoi? Parce que, justement, l'homme, n'ayant plus le contrôle de la raison dans bien des cas, n'ayant plus la grâce sanctifiante pour l'aider à lutter contre les blessures du péché originel, mais l'homme devient une espèce de monstre. Article 3. La tempérance a-t-elle seulement pour objet les concupiscences et les plaisirs des sens? Donc, je vous rappelle qu'il y a trois concupiscences. Concupiscence des yeux, désir de tout avoir. Contre cette concupiscence des yeux, il faut pratiquer l'esprit de pauvreté. Deuxième concupiscence, la concupiscence de la chair, contre laquelle il va falloir exercer la chasteté. Et la concupiscence de l'orgueil, contre laquelle il va falloir exercer l'obéissance. Bon. Les biens sensibles ne sont pas en soi, en eux-mêmes, opposés à la raison, dit saint Thomas. Ils sont plutôt pour elle un moyen d'atteindre sa fin. Donc on a, c'est le début des exercices, rappelez-vous pour ceux qui ont fait des retraites, Saint-Ignace explique très bien au début de ces exercices qu'on a le droit d'utiliser toutes les créatures qui nous entourent autant que ces créatures nous aident à atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés, à savoir sauver notre âme. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Mais si ces objets qui sont autour de nous, ces différentes créatures qui nous entourent, deviennent pour nous un obstacle à la fin pour laquelle nous avons été créés, nous devons couper avec elles. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si ton bras droit, si ton pied droit, si ton œil droit sont pour toi les occasions de péché, coupe, arrache, jette loin, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul bras, une seule main et un seul œil, plutôt que de tomber en enfer avec les deux pieds, les deux mains ou les deux yeux. Le mouvement de l'appétit sensitif vers eux ne nous est contraire que par son dérèglement provoqué par le péché originel. J'ai déjà expliqué. La tempérance a donc pour objet d'en modérer l'excès en comprimant les passions qui nous entraînent vers ces biens, c'est-à-dire les concupiscences et les plaisirs. Donc le concupiscible, qui est une puissance de notre âme, est quelque chose de bon. Nous avons les puissances de notre âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. L'intelligence pour atteindre le vrai, la volonté pour atteindre le bien, l'irascible pour lutter contre les obstacles, et le concupiscible pour désirer les choses qui sont autour de nous. Lorsque ces puissances de l'âme sont sous le contrôle de la raison, il n'y a pas de problème. Lorsque ces puissances de l'âme, au contraire, deviennent indépendantes de la raison, c'est là où le péché grave s'introduit dans l'âme. Donc voilà le texte de saint Thomas. La tempérance a pour objet de modérer l'excès dans cet appétit sensitif en comprimant les passions qui nous entraînent vers ces biens, c'est-à-dire les concupiscences et les plaisirs. Par voie de conséquence, elle modère aussi les tristesses qui naissent de la privation des jouissances sensibles. Donc la vertu de tempérance est une vertu extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les concupiscences, la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair vont être réglées par la vertu de tempérance. La vertu de tempérance est quelque chose d'extrêmement important. La prudence, si vous voulez, va régler l'intelligence. La force va régler la volonté, que je me retrouve, la tempérance va régler les concupiscences en général. Et donc, chacune de ces quatre vertus cardinales, donc la prudence, la force, la justice et la tempérance, donc je reprends, parce que j'ai pas le texte sous les yeux là, je fais ça de mémoire pour ne pas dire bêtises. Donc la prudence va régler l'intelligence, la justice va régler l'intelligence, la prudence. Attendez, que je m'y retrouve. Donc je reprends. Quatre vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la vertu de tempérance. La prudence va régler le bon usage de l'intelligence. La justice va régler le bon usage de la volonté. Puis la force va juger le bon usage de l'irascible, et la concupiscence, le concupiscible, la tempérance plutôt, va régler le bon usage des trois concupiscences en général. On va bien réexpliquer tout ça, c'est un peu compliqué pour moi-même, je me perds intellectuellement dès que j'ai pas les textes sous les yeux. Je m'excuse pour ce manque de clarté de ce côté-là. Donc, saint Thomas va bien expliquer tout ça. C'est pour ça que ce traité de la tempérance est très important, parce que la tempérance va régler, si vous voulez, toutes les concupiscences. Surtout, elle va régler, en fait, la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair. Donc, la tempérance est la vertu cardinale qui nous est donnée par le bon Dieu pour nous occuper surtout de tous les péchés, pour lutter contre tous les péchés de luxure, concupiscence de la chair, et également la concupiscence des yeux, c'est-à-dire nous aider à nous détacher des biens de ce monde par l'esprit de pauvreté. Ils ont bien expliqué tout ça. Donc saint Thomas répond directement à cette question, à l'article 4 qui est très important, l'article 4 de la question 141, la tempérance a-t-elle pour objet propre les concupiscences et les plaisirs du toucher ? Chargée de réprimer le désir des plus grandes jouissances, la tempérance a pour objet propre de mettre un frein au plaisir de la chair, qui concerne la propagation de l'espèce humaine et au plaisir du boire et du manger, qui regarde la conservation de la vie corporelle, la nature animale n'ayant pas de plus grande satisfaction que celle-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, naturellement, à cause du péché originel en nous, la concupiscence de la chair, quelque chose d'extrêmement fort, comme ces diverses satisfactions appartiennent au sens du toucher, nous devons dire que la vertu de tempérance a pour objet principal la modération des plaisirs du toucher. Donc, s'occuper de tout ce qui regarde la concupiscence de la chair. Mais aussi, nous allons voir, la concupiscence des yeux. Il y a une tempérance aussi dans les yeux. En fait, il y a un lien entre la concupiscence de la chair et la concupiscence des yeux. Si je ne suis pas habitué à mortifier mes yeux, j'aurai un mal fou à mortifier les tentations contre la pureté en moi. En matière d'éducation, ce que je dis là est capital. Si vous n'apprenez pas, vous parents qui m'écoutez, à aider vos enfants à mortifier leurs yeux, surtout quand ils sont dans des lieux publics, ils auront pratiquement l'impossibilité de se rendre maître des différents plaisirs du toucher, la concupiscence de la chair, justement parce que leurs yeux sont les fenêtres de l'âme. Si les fenêtres sont toujours grandes ouvertes, n'importe qui peut rentrer par les fenêtres. D'où l'importance de cette mortification du regard. Il faut ne pas hésiter quand vous êtes dans un grand magasin ou dans une grande surface avec vos enfants, ce qui est d'ailleurs pas l'idéal, il vaut mieux pas y aller avec les enfants quand on peut, mais si vous êtes obligé d'y aller avec vos enfants et qu'il y a une mauvaise affiche, une personne qui est très mal habillée qui arrive devant vous, il faut savoir dire à vos enfants, mes enfants, personne n'est mal habillée, regardez vos doigts de pied, hein, pour apprendre à dominer votre regard. Le bon Dieu ne vous a pas donné vos yeux pour que vous fassiez n'importe quoi avec eux, de même qu'il ne vous a pas donné un cœur pour que vous fassiez n'importe quoi avec lui, eh bien, c'est la même chose, nous devons apprendre à dominer nos sens. Article 5. La tempérance a-t-elle pour objet les plaisirs du goût? Les plaisirs du goût, de l'odorat et de la vue se rapportent secondairement à la vertu de tempérance. Plaisir de la vue, regarde, je vous l'ai déjà dit, la concupiscence des yeux. Comme le goût se rapproche du toucher plus que les autres sens, il est aussi plus que l'objet de la tempérance. Vous voyez, donc il y a les trois choses, il y a le goût, il y a les yeux, et il y a la chair. Ces trois choses sont contrôlables avec la grâce du bon Dieu par la vertu cardinale de tempérance. Mais la vertu cardinale de tempérance peut être dans certains cas, si le bon Dieu nous en fait la grâce, une vertu infuse, directement donnée par Dieu. Mais dans bien des cas, c'est une vertu qui est en fait une vertu acquise aussi. Et la vertu acquise, elle s'acquiert par la répétition des actes. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants, si vous voulez, à se méfier d'eux-mêmes pour qu'ils apprennent à avoir les actes appropriés afin de se protéger. Donc il faut apprendre à un enfant de ne pas systématiquement vouloir tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il désire. Il faut qu'il apprenne à mortifier sa chair. Il faut apprendre aux enfants à ne pas regarder n'importe quoi. Il faut apprendre aux enfants à être maître de leur sens. Et ça, c'est pas facile du tout. Je vois constamment dans les grands magasins, par exemple, quand je suis en attente au couloir des caisses, il y a souvent des enfants qui sont avec leur maman, et les grands magasins savent très bien ce qu'ils font. Ils placent toujours près des caisses des tas de petits trucs que les enfants vont demander. Il y aura des chewing-gums, il y aura des bonbons. Et régulièrement, j'entends le petit gamin de 5 ans, « Ah, maman, je veux les chewing-gums. » Non, t'en as pas besoin. « Maman, je veux les chewing-gums. » Non, t'en as pas besoin. « Maman, je veux les chewing-gums. » Et malheureusement, très souvent, la maman cède en disant bon, d'accord, t'as compris. Vous voyez? Et il faut avoir le courage aussi de ne pas répondre à la question de l'enfant. Maman, je veux un chewing-gum. Non. Pourquoi? Répondez pas. Pourquoi? Parce que maman a dit non. C'est la seule réponse qui convient à l'enfant à cet âge-là. Vous voyez? Et si on n'apprend pas aux enfants à être maîtres de leur sens, surtout de leur toucher et de leurs yeux, alors à ce moment-là, une fois qu'ils vont devenir des adolescents, les tentations de luxure, tous les péchés d'impureté, plus les tentations de tout posséder, vont être partout. Surtout actuellement avec la société des écrans, ces écrans lumineux, ces appels constamment à l'achat, à l'usage de tous ces écrans, tous ces ordinateurs, tous ces téléphones portables, etc., fait que si on n'a pas la vertu de tempérance, eh bien on devient absolument l'esclave de toute cette consommation et on tombe dans le consumérisme qui va nous faire des catastrophes sur le plan moral. Article 6, cette question numéro 141 est vraiment une question extrêmement importante. Article 6, les nécessités de la vie présente sont-elles les règles de la tempérance? Sont-elles la règle de la tempérance? L'homme tempérant trouve une règle dans l'Ancien et Nouveau Testament pour l'usage des biens d'ici-bas. C'est de n'en aimer ni d'en désirer aucun qui ne soit nécessaire au soutien de sa vie à l'accomplissement de ses devoirs. C'est encore une fois le « autant que, pas plus que » de saint Ignace. Donc, toutes les choses agréables, dit saint Thomas, dont les hommes font usage, sont destinées à pourvoir aux nécessités de cette vie. Il en résulte que ces nécessités elles-mêmes peuvent servir de règle à la tempérance. En d'autres termes, on doit user des plaisirs de ce monde autant que les besoins de la vie présente l'exigent. Vous voyez, c'est tout à fait en parallèle avec le texte de saint Ignace. Autant que, pas plus que. Avant d'utiliser une créature, je dois réfléchir, est-ce que cette créature est pour moi une aide pour atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé? Ou est-ce qu'au contraire, cette créature est pour moi un obstacle et va m'empêcher d'atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé? Oui. Très souvent, les gens ne pensent pas à ça, surtout les adolescents et les jeunes adultes. Ils viennent nous présenter une jeune fille, monsieur l'abbé, voilà, on s'est rencontrés, on s'aime, on va se marier. Il faut nous préparer un mariage, on va se marier. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Monsieur l'abbé, on s'aime. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce que cette jeune fille que vous avez rencontrée, qui est peut-être très mignonne avec son petit nain trompette, est-ce qu'elle va vous aider à atteindre la fin pour laquelle vous avez été créé, à savoir d'aller au ciel? Est-ce que cette jeune fille qui va devenir peut-être votre femme, si c'est la volonté du bon Dieu, est-ce que votre épouse va vous aider à aller au ciel? Est-ce que votre épouse va aider les enfants que vous allez avoir dans le cadre du mariage, puisque le but du mariage est d'avoir des enfants? Est-ce que ces enfants, votre épouse va aider ses enfants à aller au ciel en leur donnant une bonne éducation catholique? Monsieur l'abbé, elle est mignonne. Oui, elle est très bien, je veux bien. Est-ce qu'elle a la foi? Ah ben non. Elle est protestante, ou elle est bouddhiste, ou elle est musulmane, ou elle est je ne sais pas quoi. Comment vous allez faire avec une épouse qui n'est pas catholique pour aller au ciel et pour amener vos enfants au ciel? Mais cette jeune fille que vous avez rencontrée, qui est peut-être très jolie encore une fois avec son petit nain en trompette, est pour vous un obstacle au salut de vos enfants. Donc, il faut en chercher une autre ou la convertir complètement avant le mariage. Oui. Donc je répète cette phrase. Toutes les choses agréables dont les hommes font usage sont destinées à pourvoir aux nécessités de cette vie. Il en résulte que ces nécessités elles-mêmes peuvent servir de règle à la tempérance. En d'autres termes, on doit user des plaisirs de ce monde autant que les besoins de la vie présente l'exigent. Donc ce n'est pas un péché d'avoir une attraction pour certaines choses agréables. Par exemple, la nourriture. On ne doit pas vivre pour manger, mais on doit manger pour vivre. Et pour nous aider à vivre, le bon Dieu a mis dans l'usage de la nourriture une certaine jouissance, qui est légitime. Vous avez le droit, en mangeant un plat qu'a préparé votre maman, un jeune a le droit de dire, ça c'est rudement bon, merci maman pour ce bon plat que vous avez préparé. Bon, très bien. Ce n'est pas du tout un péché. De la même façon, pour maintenir l'espèce humaine, le bon Dieu a institué le sacrement de mariage. Il a voulu que dans le sacrement de mariage, il y ait une union physique des corps entre l'homme et son épouse, pour justement pouvoir avoir des enfants. Donc à ce moment-là, deviennent licites tous les actes nécessaires à la procréation d'une espèce nouvelle des enfants qui vont arriver dans le cadre du mariage. Bon. Pour aider à ce devoir, qui est tout de même un devoir très lourd, eh bien le bon Dieu a placé dans l'usage du mariage un plaisir qu'il est parfaitement légitime de s'autoriser entre personnes mariées, à condition que j'utilise ce plaisir comme une aide pour atteindre la fin pour laquelle le bon Dieu a donné le sacrement de mariage. De la même façon, ce n'est pas un péché de bien aimer tel plat de votre maman, parce que le bon goût de ce plat va vous aider à remplir la fin pour laquelle le bon Dieu nous a donné la nourriture, à savoir le bien-être matériel de notre corps, la bonne santé corporelle. Alors, l'homme tempérant, ça c'est une citation d'Aristote en fait, l'homme tempérant désire les jouissances, soit à cause de sa santé, soit pour le maintien de ses bonnes habitudes. Il repousse celles qui sont contraires, mais pour les choses qui, sans être absolument nécessaires, ne sont pas nuisibles, il s'en sert modérément selon les lieux, les temps et la convenance des personnes avec lesquelles il vit. Or, les nécessités de convenance embrassent tout à la fois les convenances du corps, de la fortune, de la condition et d'honnêteté. Bon. Et ces nécessités de convenance peuvent aussi changer selon les cultures. Il y a des choses qui peuvent être convenables dans une culture et qui ne le seront pas dans une autre culture. Tous les missionnaires le savent très bien. C'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles pour un missionnaire, c'est d'arriver à comprendre une culture totalement différente de celle dans laquelle vous êtes né. J'ai eu ce problème en Afrique, j'ai eu ce problème parfois un peu moins en Amérique latine, où les coutumes ne sont pas les mêmes. Bon, si ce sont des coutumes qui sont contre la loi naturelle, il est évident qu'on ne va pas les accepter. Par exemple, un missionnaire ne pourra jamais accepter le principe d'avoir plusieurs épouses pour un homme. C'est la coutume dans beaucoup de pays africains. À partir du moment où les hommes veulent se mettre à plusieurs épouses, ça va contre la loi naturelle, contre l'essence même du mariage. C'est évident qu'on ne peut pas accepter une chose comme ça. Mais il y a certaines coutumes qui ne sont pas en soi contre la loi naturelle. Et donc, on peut les accepter, encore une fois, avec une certaine prudence, mais on peut les accepter. Par exemple, il y avait, quand j'étais en Afrique, on avait ce qu'on appelait le mariage coutumier, selon les coutumes de la tribu, qui était en soi, je dis bien en soi, pas forcément contre la loi naturelle. Donc, on pouvait les accepter. Article 7 de la question 141. La tempérance est-elle une vertu cardinale? Alors, on a déjà répondu, oui, c'est une vertu cardinale, au même titre que la prudence, la justice et la force. Donc, chacune de ces vertus cardinales va nous aider à modérer l'usage des créatures. La modération requise dans toutes les vertus est plus spécialement louable dans les plaisirs du toucher, objet de la tempérance. Donc, la modération des plaisirs de la table, la modération des plaisirs des yeux, la modération des plaisirs de la chair, étant une chose extrêmement importante, la vertu de tempérance doit avoir une force extraordinaire pour nous aider à mortifier tout cela. Et si je pense qu'on peut dire que si notre monde moderne est devenu une jungle, bon, bien sûr, c'est parce qu'on a mis le bon Dieu dehors, mais c'est aussi parce que la vertu de tempérance a complètement disparu, qu'on ne cherche plus du tout à contrôler l'usage de nos yeux, l'usage du goût et l'usage l'usage de la chair. Donc on se laisse dominer par les passions, on devient esclave de nos passions, il n'y a plus la vertu de tempérance pour régler tout cela. Alors évidemment, les passions partent dans tous les sens. Et c'est la révolution dans nos âmes. La raison brille donc avec d'autant plus d'éclat dans la tempérance qu'elle modère les concupiscences et les délectations les plus éloignées d'elles-mêmes, celles qui nous sont communes avec les brutes, c'est-à-dire avec les animaux. C'est pour cela que la vertu de tempérance est une vertu absolument fondamentale, surtout aujourd'hui. Les autres aussi, là. On a déjà vu que la vertu cardinale la plus importante, c'est pas la tempérance, c'est la force, c'est la prudence, pardon. La prudence qui va diriger les autres vertus cardinales. Mais la tempérance, l'usage correct de la tempérance est absolument nécessaire pour que nous puissions rester en état de grâce, surtout pour les jeunes et dans les villes modernes avec toutes les tentations des villes. Article 8, la tempérance était la plus grande des vertus. Donc voilà ce que dit saint Thomas, le bien de la multitude, l'importance sur le bien d'un seul homme, plus une vertu est utile à la société, meilleure elle est. Or, la justice et la force sont plus utiles à la multitude que la tempérance. La justice règle nos relations avec le prochain, la force nous fait affronter les périls de la guerre en vue du salut public. La tempérance règle seulement les désirs et les plaisirs d'un individu relativement à lui-même. Il est donc évident par là qu'elle n'est pas la plus grande des vertus, elle n'égale ni la justice ni la force, inférieure elle-même à la prudence et aux vertus théologales. Donc il y a une hiérarchie dans les vertus. D'abord les trois vertus théologales, la première c'est la charité, puis la foi et l'espérance, la charité pour suivre la loi du bon Dieu, tout simplement, pour aimer le bon Dieu, la foi pour croire, l'espérance pour prier, et ensuite les quatre vertus cardinales, et là encore une fois, il y a un ordre. D'abord la vertu de prudence, qui est le cocher des vertus cardinales, dit saint Thomas, puis la vertu de justice, puis la vertu de force, puis la vertu de tempérance. Alors, le fait que la vertu de tempérance soit la dernière des vertus cardinales ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Il y a une hiérarchie. Je pense que sur le plan pratique, la vertu de tempérance a une influence considérable. Il n'est pas possible, surtout pour les jeunes, de rester en état de grâce sans la vertu de tempérance. À cause des tentations tellement fortes qui touchent à la sensibilité, qui passent par les yeux et par le toucher, et par le goût. Voilà, avec cette question 141, donc j'insiste sur cette question, qui est une question, c'est vraiment la question la plus importante de tout le traité sur la tempérance. Voyons maintenant les vices opposés à la tempérance. Bon. Premier article de la question 142, les vices opposés à la tempérance, l'insensibilité est-elle un vice? Voilà ce que répond saint Thomas. Tout ce qui est contraire à l'ordre naturel est vicieux. C'est-à-dire tout ce qui va contre la loi naturelle est vicieux. La loi naturelle, c'est quoi? Le naturel, c'est les 10 commandements de Dieu. Donc tout ce qui va contre les 10 commandements de Dieu est toujours mauvais, donc toujours vicieux. La nature qui a attaché le plaisir à tous les actes nécessaires à la vie humaine fait donc une loi à l'homme d'en user autant que l'exige sa propre conservation et celle de l'espèce humaine. Encore une fois, autant que, pas plus que. De même que l'on se prive des plaisirs de la chair et de la table pour la santé du corps, de même que les athlètes et les soldats s'imposent des privations pour remplir les devoirs de leur état, de même les pénitents pour l'abstinence pour la santé de l'âme. Donc, il faut multiplier certains gestes, par exemple, pour obliger notre corps à pouvoir remplir certaines fonctions. Ou par exemple, le travail absolument invraisemblable, par exemple, qui se fait pour les gymnastes professionnels pendant des heures, des heures et des heures et des heures, ils vont travailler pour s'assouplir les muscles, s'assouplir leurs articulations, pour pouvoir vraiment être maître en quelque sorte de leur corps, des mouvements de leur corps. Certains sportifs de haut niveau sont capables de faire des sacrifices, mais énormes, pour pouvoir pratiquer leur sport, même si ça demande des gros sacrifices. Si on leur demandait le dixième de ce qu'ils font pour leur corps, pour leur âme, ils seraient tous des saints, plus longtemps. Mais pour le corps, ils veulent bien faire des sacrifices, mais ils veulent faire aucun sacrifice pour leur âme, parce qu'ils n'ont pas compris que l'âme est plus importante que le corps. L'âme étant la forme du corps, l'âme va donner la vie au corps, donc l'âme doit contrôler le corps. Et donc s'il faut contrôler le corps, par la pratique régulière, par exemple, de certains actes physiques pour obliger le corps à faire comme nous le voulons telle fonction physique, par exemple, de la même façon, il faut bien sûr que l'âme soit maîtresse d'elle-même pour pouvoir dominer le corps et que l'âme ne devienne pas esclave du corps. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les âmes sont devenues esclaves des corps. Alors, c'est important, là, il y a une bonne phrase de saint Thomas, je la répète. La raison brille avec d'autant plus d'éclat dans la tempérance qu'elle modère les concupiscences et les délectations les plus éloignées d'elles-mêmes, celles qui nous sont communes avec les brutes. Avec les animaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mesure où je laisse les concupiscences, la concupiscence de la chair, surtout la concupiscence des yeux, faire n'importe quoi dans mon âme, eh bien, je deviens comme un animal. L'homme est un animal raisonnable. Si j'enlève la raison, il ne reste plus que l'animal. Ne restant plus qu'animal, ben, l'homme va devenir comme un chat ou un chien, mais plus du tout comme un homme. Alors les chats, les chiens ne vont pas au ciel. Il n'y a pas de ciel pour les chats et les chiens. Pour pouvoir aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Pour pouvoir aller au ciel, ben, il faut impérativement que nous soumettions nos passions corporelle à l'âme. Parce que l'âme, justement, est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. La tempérance est-elle la plus grande de toutes les vertus? Ah, pardon, on a déjà vu tout ça, parce que moi, je me trompe de page. Donc, on est à la question 142, donc article 1, donc je reprends cela. L'insensibilité est-elle un vice? Saint Thomas a répondu, tout ce qui est contraire à l'ordre naturel est vicieux. Donc la nature qui a attaché le plaisir à tous les actes nécessaires à la vie humaine fait donc une loi à l'homme d'en user autant que l'exige sa propre conservation et celle de l'espèce humaine. Alors, Saint Thomas avait précisé, de même que l'on se prive des plaisirs de la chair et la table pour la santé du corps, de même les athlètes et les soldats font des pénitences, de même les pénitents emploient l'abstinence pour la santé de l'âme. J'ai déjà expliqué. Article 2 de cette question 142, les vices opposés à la tempérance. Article 2, la tempérance est-elle un vice puéril? Donc puéril, puer en latin, c'est l'enfant. Donc un vice puéril, la tempérance est un vice puéril dans le sens qu'elle a une certaine ressemblance avec ce que font les enfants. Les enfants ont du mal à se dominer. Donc l'intempérant n'agit plus comme un adulte mais comme un enfant. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Comme l'enfant abandonné à ses mauvais penchants devient incorrigible, l'intempérant, qui ne réprime pas sa concupiscence, la tourne en habitude et en nécessité. Elle s'accroît de toutes les satisfactions qu'il lui accorde. L'intempérant et l'enfant ont besoin d'un même remède, qui est la correction. C'est une phrase importante de saint Thomas. L'intempérant et l'enfant ont besoin du même remède qui est la correction. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de maintenir le corps sous le contrôle de l'âme. Voilà ce que dit le Saint-Esprit, livre des Proverbes, chapitre 23, verset 13. Tenez l'enfant sous la discipline, frappez-le de verge pour sauver son âme. Je vais rappeler ça à tous ces députés qui veulent supprimer l'usage de la fessée, qui est pourtant bien nécessaire dans certains cas. Comme le dit saint Augustin, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche pas le derrière. Car c'est de la sorte que l'on réduit la concupiscence. C'est justement parce que on a supprimé tous les châtiments corporels que la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, est devenue tellement forte que les gens sont plus capables de la contrôler, de les contrôler. Article 3. La timidité est-elle un vice plus grand qu'est l'intempérance ? Alors, saint Thomas explique que la timidité, qui est un des vices opposés à la tempérance, la timidité est plus excusable que l'intempérance. Il donne quatre raisons. Elle est très naturelle en présence des périls de mort, à cause du désir de conserver notre vie. Deuxièmement, c'est qu'en Dieu, elle est portée à l'excès par les dangers de la mort, la crainte trouble la raison de l'homme plus que l'intempérance et le laisse moins maître de lui-même. Troisièmement, l'intempérance est plus volontaire que la timidité. Quatrièmement, les plaisirs de la table et de la chair se présentent tous les jours. Donc il est plus facile de les réprimer que de remédier à la crainte des périls de mort dont les cas sont plus rares. Donc, ainsi, la timidité est plus excusable que la tempérance. L'intempérance est donc un vice plus grand que celui de la timidité. L'intempérance, article 4, est-elle le péché le plus honteux ? Le philosophe, c'est Aristote, hein, l'intempérance est le plus ignominieux de tous les vices. Pourquoi ? Donc, saint Thomas a déjà expliqué, parce qu'elle nous rabaisse au niveau des animaux. C'était l'article 7 de la question 141. Question 142, article 4, il dit la même chose. L'intempérance est le plus ignominieux de tous les vices. En effet, infiniment opposé à l'excellence de l'homme, c'est un être composé d'un corps et d'une âme, l'intempérance le rabaisse au rang des brutes, des animaux. L'homme élevé en honneur n'a point compris sa dignité, il s'est comparé aux bêtes sans intelligence et s'est fait semblable à elles. Psaume de David. Donc, lorsque on tombe dans l'intempérance, on refuse d'agir comme homme. Je vous ai expliqué, l'homme est un animal raisonnable, la raison c'est l'âme, mais il y a aussi une partie corporelle qui doit être sous la domination de la raison. Lorsque l'homme devient intempérant, il coupe en quelque sorte l'influence de l'âme sur le corps. Donc le corps fait n'importe quoi. Comme un enfant, si vous voulez, qui voit un beau couteau de cuisine qui brille sous la lumière, et donc qui prend un beau couteau de cuisine pour s'amuser à tailler le plancher de bois de la maison. Bon. Et il n'a pas justement la raison qui va lui dire « c'est dangereux, tu vas faire des bêtises, en plus tu risques de te couper ». Il ne voit pas ça parce que justement, il n'a pas encore l'usage complet de la raison. De plus, dit saint Thomas d'Aquin, l'intempérance, ça c'est une très belle phrase, est contraire à la clarté et à la beauté de la vertu. Dans les plaisirs auxquels elle s'abandonne, on ne voit briller d'aucune manière les lumières de la raison à laquelle la vertu emprunte toute sa splendeur. Aussi les appelle-t-on les plaisirs bas et serviles. C'est pour cela que Aristote dit que la tempérance est le plus ignoble de tous les vices. Et saint Thomas conclut, il suit de là que l'intempérance est le plus honteux de tous les vices. Il ne dit pas c'est le plus grave de tous les vices, l'orgueil est plus grave. Et l'intempérance est le plus honteux de tous les vices. De même, par exemple, que les péchés contre l'espérance ne sont pas les péchés les plus graves, mais c'est les péchés les plus dangereux. parce qu'ils peuvent amener jusqu'au suicide. Là, ici, saint Thomas conclut en disant l'intempérance est le plus honteux de tous les vices. Pourquoi ? Parce qu'il rabaisse l'homme au niveau des animaux. Quoi qu'il y ait des péchés plus graves, l'intempérance n'en est pas moins le plus ignoble de tous. L'habitude peut en diminuer l'infamie dans l'opinion des hommes et n'en change pas la nature. Donc les péchés contre nature sont les péchés les plus honteux parce que c'est les péchés de l'intempérance par définition qui coupent le corps de toute influence spirituelle de l'âme. Voyons la question rapidement, la question 143, qui est une question qui introduit la deuxième partie du traité, partie de la tempérance. Bon. On dit, article 1, il n'y a qu'un seul article dans cette question 143. Cicéron a-t-il raison d'assigner à la tempérance trois parties, la continence, la clémence et la modestie ? Voilà, on va rentrer dans des parties extrêmement pratiques et très utile pour la pratique de la vertu de la pureté. Donc il faut bien connaître cet enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas explique qu'on distingue dans chaque vertu cardinale, dont la tempérance, les parties intégrantes, les parties subjectives et les parties potentielles. Les parties intégrantes sont les conditions nécessaires de la tempérance. Ça veut dire que sans ces parties intégrantes, il ne peut pas y avoir de tempérance. Il y en a deux, la honte et l'honnêteté. Les parties subjectives se partagent comme les plaisirs du toucher en deux classes. Les unes, l'abstinence et la sobriété, au rapport à la nourriture. Les autres, la chasteté et la pudicité, concernent la génération. Les parties potentielles, aux vertus annexées à la tempérance, sont la continence, la clémence et la modestie. Donc saint Thomas va donc maintenant parler de la honte, de l'honnêteté, de l'abstinence, de la sobriété, de la chasteté, de la pudicité, la pudeur, qui concerne la génération, de la continence, de la clémence et de la modestie. Il y aurait des volumes à écrire sur ces vertus-là, tellement elles sont importantes. N'oublions pas que le démon sait très bien, comme il est un ange, n'oubliez pas qu'il comprend les choses bien mieux que vous et moi, le démon sait que, puisque le défaut de tempérance va ramener l'homme au niveau des animaux, il est capital pour le démon de supprimer justement cette influence de la tempérance pour amener les âmes beaucoup plus facilement en enfer à cause de la force de l'attraction des plaisirs de la chair et des plaisirs du corps et des plaisirs des yeux. Voyons la question 144, des parties intégrantes de la tempérance. Et d'abord de la honte. Je rappelle que les parties intégrantes sont des conditions nécessaires pour que la tempérance puisse exister. Article 1. La honte est-elle une vertu ? Cet article est extrêmement important dans la pratique. Bon. Parce que la honte, donc justement, explique saint Thomas, où la crainte d'une chose honteuse est un sentiment bon en soi, mais parce qu'elle répugne à la perfection, n'est pas une vertu. L'homme parfaitement vertueux ne craint pas ce qui est blâmable et honteux, car il ne fait rien qui puisse lui donner l'occasion de rougir. C'est ce qui nous fait dire qu'à parler rigoureusement, la honte qui n'existe que par l'absence de la perfection n'est pas une vertu. Mais la honte, explique saint Thomas, même si elle n'est pas en soi une vertu, est très utile pour protéger l'honnêteté. Alors ça, c'est capital à comprendre. La vertu de chasteté va être protégée par cette honte, justement. Parce que la honte va faire que une personne va avoir, comme son nom l'indique, honte d'être nue devant d'autres yeux que les siens, ou d'autres yeux que les yeux des personnes qui ont droit de l'avoir vu. Par exemple, entre époux dans l'intimité familiale, dans l'intimité conjugale. Donc, pour pouvoir détruire la chasteté, le démon va donc tout faire pour détruire cette honte de la nudité. La honte de la nudité est quelque chose de naturel. C'est une vertu naturelle dans ce sens-là, ce qui fait que les gens naturellement devraient avoir honte de se retrouver tout nu devant tout le monde. D'où l'importance de l'éducation des enfants. Si vous laissez votre petit gamin de 2 ou 3 ans à la maison, se promener tout nu dans la maison, sous prétexte qu'il est trop petit pour comprendre qu'il fait quelque chose de mal, vous allez l'habituer à être tout nu en présence d'autres personnes, et du coup, il va perdre cette honte. En latin, on dit verecundia. C'est difficile à traduire. Cette espèce, on va expliquer ça après avec d'autres articles de la Somme de Saint Thomas, d'autres articles de ces questions-là, dans la traitude de la tempérance. Donc la verecundia, justement, c'est cette espèce de pudeur, dans le bon sens du terme. Et c'est parce que cette honte, cette pudeur a complètement disparu dans le monde moderne que les péchés d'impureté sont devenus chose tout à fait normale. La honte protège une jeune fille. Une jeune fille, c'est une vertu surtout féminine, aussi pour les hommes, mais encore plus importante peut-être pour les femmes. La honte va faire qu'une jeune fille, naturellement, va rougir à l'idée de se retrouver nue devant d'autres personnes. Donc le démon, pour pouvoir pousser toutes les jeunes filles et les hommes ou tous les péchés d'impureté possibles et imaginables, va détruire cette honte pour que la jeune fille n'ayant plus... ne rugissant plus de se retrouver toute nue devant en public ou pratiquement, eh bien, va accepter toutes les turpitudes morales possibles et imaginables contre le 6e et 9e commandement, justement parce que sa protection naturelle a disparu. Et ça s'apprend comme enfant. Un enfant qui a perdu la vertu de pudeur va perdre immédiatement la honte salutaire. Donc cette honte est très utile, dit saint Thomas, pour protéger l'honnêteté. La honte, article 2, concerne-t-elle la turpitude des actions? Il y a deux sortes de turpitude, dit saint Thomas. L'une vicieuse, qui est la laideur même des actes volontaires, et la seconde, qui est pénale, qui consiste dans le blâme et l'opprobre que l'on s'attire et qui est le premier et principal objet de la honte. La blâme s'attache surtout au vice. La honte a aussi pour objet la turpitude du vice. Donc la honte va nous rappeler que le vice est quelque chose de mauvais. Supprimer la honte, et la chose qui est en soi mauvaise va apparaître comme étant bonne. Donc cette honte va agir sur l'homme de deux manières. D'une part, elle le porte tantôt à éviter ou à cesser le péché dans la crainte du blâme, tantôt à cacher ses actions de peur d'encourir le déshonneur. C'est pour cela qu'il faut comprendre que Dieu étant Dieu, voit tout. Et donc, si j'ai réalisé que lorsque je commets une turpitude morale, Dieu me voit, mon ange gardien me voit, eh bien, ça va m'aider à ne pas faire cette chose, parce que cette honte va m'aider à ne pas vouloir encourir le déshonneur devant Dieu et perdre la grâce sanctifiante par le péché. La honte, on le voit donc, dit saint Thomas, ne suit pas toujours la gravité des fautes. Pourquoi les péchés d'esprit, comme l'orgueil, sont plus graves que ceux de la chair? Et cependant, ils sont moins honteux, à raison de la supériorité même qu'ils annoncent à l'égard des choses extérieures. L'orgueil regarde l'âme. Les péchés de la chair regardent le corps. Donc il y a une honte dans les péchés de la chair qu'il n'y a pas, ou pas de la même façon, dans les péchés de l'esprit. Article 3. L'homme éprouve-t-il plus de honte devant ses proches que devant les étrangers? Voilà ce que dit saint Thomas. Nous éprouvons plus de honte devant nos proches qui nous connaissent mieux, qui nous observent avec plus d'intérêt que des étrangers, d'une certaine façon. D'une autre façon, il y a aussi cette honte par rapport à l'étranger, parce que l'étranger est quelqu'un qui est hors de la famille. Si l'on ne rougit pas d'une faute devant ceux qui la commettent habituellement, c'est qu'on sait qu'ils ne la regardent pas comme honteuse. On rougit devant des personnes indiscrètes à cause du tort qu'elles peuvent causer par leur diffamation. Nous éprouvons plus de honte devant les personnes qui nous ont toujours vus réprochables, redoutant de détruire la bonne opinion qu'elles avaient de nous. Le contraste paraît d'ailleurs augmenter la faute. Vous voyez, donc, cette honte, si vous voulez, doit exister impérativement dans les familles, parce que la honte de la nudité va protéger la vertu de chasteté. C'est ce qu'on appelle, on verra ça un peu plus tard, la vertu de pudeur, de pudicité. Article 4. La honte existe-t-elle chez les hommes vertueux ? La honte ne se rencontre pas dans les hommes de bien. Elle ne se trouve pas non plus dans les grands scélérats qui se vantent de leurs crimes. Cela ne regarde pas le déshonneur comme possible. Ceci ne trouve pas le vice honteux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Attention, bien comprendre le texte. C'est que les hommes de bien ne se préoccupent pas de ce que pensent les autres autour d'eux. Et les hommes de bien ne sont pas tentés de faire des choses honteuses. Donc pour eux, la honte n'est pas nécessaire, ou pas au même degré. De même, si vous voulez, que des grands bandits qui se vantent de leurs crimes ont dépassé tout stage de honte. L'homme véritablement vertueux évite donc non seulement ce qui est mal en soi, mais encore ce qui passe pour mal dans l'opinion des hommes. Et l'homme vertueux va surtout éviter ce qui est mal devant Dieu, donc ce qui va contre la loi naturelle. Nous verrons ainsi avec saint Thomas un peu plus tard que les péchés les plus graves contre la vertu de tempérance et la vertu de chasteté sont les péchés justement qui vont contre nature et qu'on appelle à cause de ça les péchés contre nature, qui sont rangés par l'Église catholique dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Alors voyons, encore un petit peu de temps, voyons la question 145 de l'honnêteté. Donc l'honnête, article 1, est-il identique avec la vertu ? Donc l'honnêteté, dit saint Thomas, est donc ce qui est digne d'honneur. L'honnêteté et la vertu, donc, sont en réalité identiques. Donc, quelque chose de vertueux et quelque chose d'honnête, ce sont là deux termes synonymes. Bon. Donc, l'honnête, article 2, est-il identique avec le beau ? Le beau, saint Thomas d'Aquin va le définir comme l'harmonie des parties. Donc, la clarté et les justes proportions, voilà le beau. On dit que Dieu est beau parce qu'il est la cause de l'harmonie des choses et de la clarté du monde. Donc la beauté est quelque chose d'objectif. Attention. On peut avoir des goûts différents selon les choses et les couleurs. Hein, vous n'êtes pas obligé, c'est parce que quelqu'un aime les artichauts, vous êtes obligé de les aimer. Bon, c'est évident. Cependant, il y a une beauté objective. Et là, encore une fois, le démon travaille avec ça, beaucoup plus qu'on le croit. Donc il va nous pousser, si vous voulez, à ne plus voir l'harmonie des parties comme chose nécessaire. Et il va nous pousser à considérer que les choses laides deviennent belles. Et à partir du moment où les choses laides deviennent belles, eh bien, le bon sens élémentaire disparaît et les personnes tombent dans le péché beaucoup plus facilement. Vous voyez ? Quelque chose de très important. On donnera d'autres exemples plus tard. Très important, par exemple, de comprendre ce que je viens de dire à propos de la musique, par exemple. Il y a une belle musique et il y a des musiques laides. Le rap, par exemple, c'est même pas de la musique. Il n'y a même plus de ligne mélodique. C'est un simple rythme, c'est tout ce qu'il y a. Plus de ligne mélodique, c'est même plus une musique en tant que telle. Mais le monde moderne, le démon va vous pousser à considérer le rap comme quelque chose de beau pour pouvoir détruire justement dans l'âme la notion de beau et surtout de beauté surnaturelle. La beauté spirituelle, dit saint Thomas, dans la conduite des hommes, résulte d'une heureuse harmonie de leurs actions accomplies à la clarté de la raison. Donc la raison doit éclairer tout ça et donner cette lumière sur le beau. Si la raison n'intervient pas, la chose n'est pas belle, parce que justement la raison ne contrôle plus rien. J'appelle honnêteté, dit saint Augustin, la beauté spirituelle. Donc l'honnête se fait désirer par sa beauté spirituelle, la beauté de l'âme. S'il vous était donné de voir la forme même et pour ainsi parler la face de l'honnête dont vous n'avez présentement que l'idée, il exciterait en vous, selon le mot de Platon, d'ineffable amour pour la sagesse. Oui. Ce traité de tempérance couvre énormément de choses très importantes au niveau de l'éducation, toute l'éducation des enfants. On reviendra sur tout ça. Le bien honnête, article 3, diffère-t-il de l'utile et de l'agréable ? Donc l'honnête, dit saint Thomas, est en même temps utile et agréable. utile par ses rapports avec le bonheur, mais agréable par sa conformité à la raison. Donc, quoi qu'il en soit, l'honnête indique une excellence digne d'honneur par sa beauté spirituelle, l'agréable satisfait les désirs, l'utile se rapporte à un but. Donc tout ce qui est utile et honnête est agréable, mais ce qui est agréable ou utile n'est pas toujours honnête. C'est là où la raison va intervenir. Si une chose est honnête, ça veut dire que cette chose suit la loi naturelle, elle est agréable ipso facto. Par contre, il y a des choses qui peuvent être agréables ou utiles dans certains cas, mais qui ne sont pas forcément honnêtes, parce que ces choses, bien qu'elles soient agréables pour la nature humaine, ne suivent pas la raison. La raison, encore une fois, détermine si quelque chose qui semble naturel va contre la loi du bon Dieu. Encore une fois, on retombe sur les premiers exemples que je vous ai donnés. S'il est très agréable pour un ivrogne de boire une bouteille de whisky tous les soirs, ça ne veut pas dire que le fait que ça soit pour lui quelque chose qui semble utile et agréable, ça peut rendre la chose pour autant honnête. La chose est malhonnête parce que la raison dit qu'on ne détruit pas sa raison ainsi par la boisson. Donc saint Thomas, à la fin de cette question 145, donc se pose la question de savoir, article 4, l'honnêteté fait-elle partie de la tempérance? Et voilà ce qu'il répond. L'honnête ou l'honnêteté est le beau spirituel qui a pour contraire la laideur. S'il est vrai que les contraires se manifestent mutuellement, l'honnêteté doit repousser ce qu'il y a dans l'homme de moins convenable et de plus honteux. Les jouissances de la brute, les jouissances de l'animal. Elle appartient sous ce rapport à la tempérance, dont l'objet est de modérer toutes les concupiscences dépravées. Et c'est là où intervient la foi. La foi va nous aider, avec l'aide de la raison, à comprendre que les choses qui vont contre la nature sont laides. Alors que le démon va essayer de nous faire croire que les choses qui vont contre nature sont en fait belles. Et donc, il faut les chercher, les rechercher. Si une chose va contre l'ordre naturel, va contre la loi divine, cette chose est ipso facto laide. Le démon est le prince de la laideur. Donc le péché est quelque chose de laid. Qu'est-ce que fait le démon? Le démon dans le monde moderne va couvrir le péché de peinture dorée pour faire croire que le péché est beau. C'est le père Calmel sur un tout autre registre qui disait que la nouvelle messe, c'est une crotte de bique recouverte de crème en chocolat. Mais c'est à peu près la même chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le démon recouvre de choses clinquantes, de choses qui semblent belles, de couleurs dorées belles, qui est belle, les choses laides pour faire oublier le caractère déshonnête de ces choses qui sont laides. On reviendra à tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer là. Je vais essayer d'aller, peut-être été un peu vite aujourd'hui. Je veux quand même avancer dans la somme. On aura le temps de terminer cette explication que je vous donne sur la somme théologique de saint Thomas avant de mourir, si possible. On reviendra sur tout ça. Donc ne vous découragez pas si même certaines parties sont un peu compliquées. N'hésitez pas aussi pour ceux, je l'ai déjà dit, hein, ceux qui ont la somme chez eux, qui ont la somme théologique de chez eux, n'hésitez pas à reprendre carrément le texte même de la somme. Il est préférable d'aller, l'eau est plus pure, comme on dit, à la source qu'à l'embouchure. Donc il faut retourner à la source, et la source c'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin elle-même. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Bilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.